Alors, bienvenue à Sport Intelligence, la perspective canadienne, un nouveau balado présenté par le Centre de documentation pour le sport au Canada, mieux connu sous le nom du CIRC. Et au travers de notre balado, nous allons vous amener dans les coulisses du secteur dynamique du sport au Canada. Je suis votre animatrice, Kim Gertler, et voici notre premier épisode où nous entrons dans un monde où l'athlétisme rencontre l'art, le royaume fascinant du Cirque du Soleil. Comment est-ce que le Cirque trouve-t-il et cultive-t-il ses athlètes, ses artistes? Nous allons ensemble explorer les stratégies d'acquisition de talent, soit la façon dont ils identifient, développent et confirment leurs nouveaux talents, et ceux-ci venant de divers milieux athlétiques. Notre invité aujourd'hui, c'est André Lachance, directeur du service de la performance humaine avec le Cirque du Soleil. André Lachance est un conférencier, un auteur best-seller au Québec, professeur universitaire et entraîneur de renommée mondiale. Avant de rejoindre le Cirque, André a passé plus de 20 ans chez Baseball Canada. Aujourd'hui, André est responsable de l'acquisition de talents au sein du Cirque du Soleil, une organisation iconique du monde du divertissement, et il nous rejoint de Montréal. My gosh, André, bienvenue à notre podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous pour ceci, notre premier épisode.
Bien, ça me fait plaisir. Puis c'était drôle d'entendre, au début, tu disais « cirque ». Puis nous autres aussi, c'est « cirque », on est vraiment proches.
Même genre de cirque, mais différents artistes dans nos équipes, c'est ça. Et quand je lis tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, my gosh, André, tu as eu toute une aventure.
Oui, puis je me sens très privilégié d'avoir eu ces opportunités-là. J'ai été chanceux dans le sens que j'ai été privilégié d'avoir autour de moi des personnes extraordinaires qui m'ont amené justement à me dépasser puis à vivre des expériences hors du commun. Fait que je me sens très privilégié.
Bien, je pense que c'est eux autres qui se sentent privilégiés de t'avoir connu aussi. Ça va des deux côtés, André. Mais ma question brûlante, c'est comment est-ce que quelqu'un va d'un niveau leadership à Baseball Canada au Cirque du Soleil? C'est pas proche, ça, là. Donc, parle-moi de ça un petit peu plus.
Écoute, on me la pose souvent, celle-là. Évidemment, après avoir passé plus de 20 ans à Baseball Canada, donc c'est un drôle de switch, comme on dit. Puis lorsque j'ai été en discussion avec le Cirque, bien, on cherchait une personne qui pouvait justement rassembler les entraîneurs acrobatiques, les entraîneurs artistiques, les thérapeutes, la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition au sein d'une équipe de support intégré, comme on appelle dans le sport. Puis, on m'a proposé ce défi-là. Puis, je me suis dit que, bon, avec ce que j'ai vécu au baseball à travers le temps, avec les consultations que j'ai fait aussi avec différents comités olympiques, ça m'a emballé. J'étais rendu à une étape de ma carrière aussi où j'avais le goût d'un nouveau défi. C'était un bold move, comme on dit. Puis j'ai décidé de plonger, puis je le regrette tellement pas. C'est tellement un bel environnement avec des personnes extraordinaires également. Je suis chanceux, encore une fois, d'être bien entouré avec une équipe extraordinaire. Donc, c'était ça l'histoire du baseball au Cirque.
Je suis certaine que plusieurs d'entre vous connaissez le Cirque du Soleil, mais sinon, en 1984, Guy Laliberté a lancé une tournée au Québec inspirée du 450e anniversaire de la découverte du Canada. Le spectacle, Sans animaux, présentait des performances dramatiques et artistiques avec des costumes extravagants, un éclairage magique et de la musique originale. Il a nommé la troupe Cirque du Soleil, car pour lui, le soleil symbolise l'énergie et la jeunesse. Là, j'aimerais commencer à parler de comment tu choisis tes athlètes, comme la sélection, comment ça se passe. Alors, en général, est-ce que les athlètes viennent au cirque pour faire carrière dans un domaine du spectacle ou est-ce qu'ils tombent par hasard? Ou comment ça marche, ça?
Donc, juste avant, pour mettre tous les auditeurs en perspective un peu, on a à l'emploi sur le soleil environ 1400 artistes. Donc, juste pour mettre un peu dans le contexte de comment on est situé avec des spectacles résidents. Les gens sont familiers peut-être avec Las Vegas. On en a un aussi à Orlando. On a des spectacles de tournée. On a des spectacles d'aréna. On a des événements qu'on a à travers le temps, comme par exemple le lancement d'une course de Formule 1, le Super Bowl. Donc, on a des événements comme ceux-là qui nous arrivent d'un bord et l'autre là, dans le courant d'une année. Donc, pour revenir à ta question, donc ayant mis ça en contexte, le parcours n'est pas pareil pour l'ensemble des artistes. Certains vont nous venir de familles de cirque traditionnelles où on se promène en caravane puis on se promène d'un village à un autre dans certains pays du monde. On en a comme ça encore aujourd'hui. On en a d'autres également qui nous viennent d'un parcours circassien, ce qui veut dire qu'un artiste peut avoir été dans une école de cirque. On en a une extraordinaire ici à Montréal, juste de l'autre côté de la rue, qui est l'École nationale de cirque. Il y en a d'autres à travers le monde, au Brésil, en Australie, un peu partout. Donc, où on va combiner études et cirque, un peu comme qu'on connaît au Québec avec les programmes sport-études, mais on l'a au niveau du cirque. Donc, il y a une possibilité de devenir un artiste de cirque professionnel à travers ce parcours-là. On a évidemment l'autre voie qui est celle de l'athlète. Donc, l'athlète de gymnastique, de natation artistique, de tumbling, de plongeon, par exemple. On arrive vers une fin de carrière, peut-être, au niveau athlétique, puis on se dit, bien, moi, j'ai le goût de continuer. Puis nous, au Cirque du Soleil, on peut offrir, justement, cette possibilité de continuer la carrière dans les arts de la scène, qui est un changement qui est important pour un athlète. On pourra, justement, peut-être en parler, à savoir comment on switch d'un athlète à un artiste, qui n'est pas super évident. Mais le parcours d'un artiste peut prendre différentes formes, selon ce que tout le monde a vécu dans sa vie.
Ma prochaine question, et c'est exactement ça. Comment est-ce que quelqu'un va d'un athlète de haut niveau, un athlète élite, à un artiste au Cirque du Soleil? C'est pas pareil, cela, là.
Pas du tout. Puis je pense que la première chose qu'un athlète vit en arrivant au Cirque du Soleil, c'est le fait qu'ici, on n'a pas de juge.
Oui.
C'est en gymnastique, en natation artistique, en plongeon, on a des juges qui vont t'accorder un point, des points, selon ta performance technique, selon d'autres critères. Et il y a des choses qu'en compétition sportive que tu n'as pas nécessairement le droit de faire parce que ça ne rentre pas dans le cadre, mais ici aussi, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, déjà en partant juste de démocratiser cet aspect-là, fait partie du parcours de passer d'un athlète à un artiste. L'autre chose également, c'est qu'un athlète sait exactement à quel moment de l'année que tu dois être à ton meilleur physiquement, mentalement, techniquement et tactiquement. Et on sait, par exemple, qu'un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques, on sait exactement, quelques années d'avance, la date et l'heure de sa prestation. Donc, on peut, avec les gens autour de l'athlète, se préparer, amener l'athlète à être à son meilleur pour les quatre piliers que j'ai mentionnés tantôt pour cette date précise-là. Au cirque, c'est pas ça, là. Au cirque, c'est, dépendamment du contexte, ça peut être de 350 à 425 fois par année où on doit performer. Donc, planifier d'être à son meilleur pour une date X, ça n'existe pas chez nous. On doit être capable d'être le plus durable possible, être capable, évidemment, d'offrir une performance presque parfaite, je vous dirais, à chaque jour, à chaque prestation, parce qu'on a des gens qui payent des billets pour venir.
Oui, oui, puis pas rien ça, mais des fois, là, quand tu vois les activités qu'ils font, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils l'attrapent là-bas.
C'est ça, exact. C'est ça. Puis le troisième élément qui est bien important pour nous également, c'est que le côté artistique, évidemment, au cirque prend beaucoup de place. Donc, notre responsabilité comme entraîneur, comme équipe de soutien à l'artiste, c'est de les amener justement à être capable d'interpréter, à jouer, d'être confortable sur scène. Et ça, on a une équipe extraordinaire ici qui amène justement les athlètes à devenir des artistes par différents ateliers, différents exercices qui les amènent à sortir de leur zone de confort puis les amener justement à performer au quotidien dans un environnement, dans un standard élevé artistique qui est le Cirque du Soleil.
Parce que ça, c'est vraiment une chose qui est exceptionnelle des spectacles que moi, j'ai vus du cirque. C'est ils n'ont pas peur d'exagérer leur visage, leur mouvement. Puis c'est ça qui rend ça tellement intéressant pour nous, les spectateurs. Mais là, quand tu rencontres un athlète qui veut devenir un artiste, je veux dire, c'est pas une entrevue de 2 mois, là. Comme tu n'as pas énormément de temps pour dire, oh non, il l'a ou elle l'a. Alors, c'est quoi les genres de caractéristiques que tu peux déterminer en peu de temps qui te dit ou qui t'informe que non, cette personne-là a ce qu'il faut pour faire la transition? Parce que c'est une transition. Puis je sais que vous avez des coachs qui les aident, mais il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose en dedans de la personne qui va les permettre à faire cette transition-là.
Oui, évidemment, tu sais, dans le monde du talent, on a ce qu'on appelle l'identification de talent. C'est que nous, comme organisation, on va dans des compétitions sportives, on va dans des festivals de cirque, on identifie des personnes qu'on voit sur scène, qu'on voit en prestation, qu'on dit, bon, cette personne-là a le bagage technique nécessaire pour faire le travail. Donc, c'est une partie d'identification de talent. C'est peut-être la partie la plus facile. parce qu'on peut voir de nos yeux, puis c'est quand même assez simple, quoique ça prend quand même des experts. La deuxième partie, c'est le développement de talent et aussi la confirmation de talent. Le seul moyen de confirmer un talent, c'est de passer du temps avec les artistes. C'est la seule façon qu'on a trouvée, puis la recherche nous dit la même chose également. C'est que si on veut s'assurer qu'une personne soit un bon fit pour une organisation, bien, passons du temps avec eux pour voir si on voit un potentiel d'amélioration, puis si aussi il y a un fit de personnalité. On ne se cachera pas que dans un groupe de travail, le fait de faire partie du groupe, d'être ouvert au feedback, d'être ouvert à se développer davantage, aux commentaires des entraîneurs, être ouvert d'esprit, pour nous, c'est super important. Fait que ça, on va aussi le valider lorsqu'on passe du temps avec eux dans des ateliers, dans des formations qu'on va avoir ici, où on va être en mesure d'évaluer puis de confirmer si le talent qu'on a vu lorsqu'on est allé dans un événement est confirmé. Et à partir de là, bien, on peut développer le talent. Fait que c'est trois piliers qui sont vraiment importants dans notre cheminement de talent, d'identification, de confirmation, de développement, qui nous permettent justement de prendre un athlète, dans le cas dont on parle présentement, et de l'amener et être confortable pour le mettre sur scène pour plaire aux spectateurs qui achètent nos billets, puis en même temps de créer justement un environnement où on va placer l'athlète artiste en position de succès.
Puis là, je suis curieuse, tu as mentionné la gymnastique naturellement, la plongeon et puis la natation artistique. Y a-t-il d'autres sports qui semblent créer des athlètes qui deviennent artistes ou c'est vraiment juste de ces trois sports-là que tu trouves?
Ceux-là, je pense, sont les probablement les plus populaires où le transfert est plus naturel. Par contre, on commence à voir, je ne sais pas si les gens sont familiers avec le parcours, mais on commence à voir des athlètes de parcours qui font une transition quand même naturelle et intéressante. Avec nous. Donc, on a un petit groupe justement en France présentement qui se développe autour de ça. Puis, ça crée des images intéressantes pour nos spectacles. Donc, on commence à garder un peu ce monde-là pour voir comment on pourrait peut-être les utiliser davantage. Mais tout ce qui est acrobatique, que ce soit ski acrobatique, il y a probablement aussi des transferts intéressants à faire pour ceux et celles qui seraient peut-être intéressés à faire ce changement-là.
Vous écoutez Sport Intelligence, la perspective canadienne. Je suis votre animatrice, Kim Gertler. Et aujourd'hui, nous explorons l'intersection fascinante du sport et de la performance avec André Lachance du Cirque du Soleil. Nous avons entendu parler de la façon dont les athlètes sont choisis pour participer au cirque et comment ensuite on les transforme d'athlètes haute performance en artistes au Cirque du Soleil. On va switcher de gear, comme on dit, là, puis là, on va discuter un peu du coaching. Parce que tu as été longtemps coach pour l'équipe féminine canadienne de baseball, mais moi, je serais curieuse d'entendre coacher un athlète dans un sport traditionnel, disons. Qu'est-ce qui change quand tu coaches un athlète au niveau artiste dans le Cirque du Soleil? C'est quoi les concepts qui sont différents, s'il y en a?
Je dirais, le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot « autonomie ». On travaille beaucoup ici, les entraîneurs, à rendre les artistes autonomes et que le coach ne devienne pas une béquille à l'artiste. Et je pense que le sport aurait beaucoup intérêt à s'inspirer de comment on gère le coaching avec les artistes ici pour le transférer au sport. On a beaucoup tendance à être toujours là à donner du feedback, donner des instructions à nos athlètes, alors que notre travail comme entraîneur, oui, on veut les améliorer, mais on veut aussi les rendre autonomes, non seulement dans le sport, mais dans la vie aussi. Et je pense qu'ici, on le fait très bien. Puis s'il y avait un partage à faire avec des coachs sportifs, je pense que ça en serait. Le deuxième élément sur lequel on travaille beaucoup présentement, c'est la confiance. En lien avec, on travaille beaucoup les compétences physiques, techniques, etc. Et si on veut que ces compétences-là s'épanouissent dans le temps, si on veut que nos artistes puissent bien performer, on doit les mettre en confiance. Et ça, pour mettre quelqu'un en confiance, c'est très bien. Je pense qu'avec les gens qui écoutent, si on a des entraîneurs à l'écoute, que de développer la confiance, ça prend du temps. La détruire, ça prend une fraction de seconde. on s'attarde beaucoup là-dessus ici, à savoir quels sont les comportements, les mots qu'on utilise qui vont construire cette confiance-là et quels sont les comportements, les mots qu'on utilise qui sont des agents d'érosion de confiance. Et c'est intéressant ce qu'on découvre à mesure qu'on gravite dans ce monde-là et comment qu'on peut être meilleur. Et non seulement les entraîneurs, mais les thérapeutes. On a ici des interprètes. Des fois, on a des artistes qui nous arrivent d'un autre pays qui parlent ni le français ni l'anglais. Donc, avec un coach qui vient d'une autre nationalité des fois, ça prend un interprète pour s'assurer que la communication se passe bien puis que la sécurité soit aussi à l'avant-plan, ce qui est important pour nous. Donc, les interprètes jouent un rôle important au niveau de la confiance parce qu'eux vont établir un lien très étroit avec l'artiste qu'ils vont représenter au niveau interprétation. Ils peuvent nous aider dans cette quête-là de développement de confiance. Fait que ça, pour nous, c'est devenu deux éléments, surtout la confiance dans la dernière année est devenue hyper important pour nous. Si notre objectif, c'est d'avoir des artistes qui vont durer longtemps, qui vont performer longtemps, on doit développer cet aspect-là de la performance qui est souvent trop négligé.
Et ça, c'est intéressant. Ça fait aussi penser un petit peu le rôle du parent. On veut que nos enfants soient autonomes puis qu'ils aient de la confiance pour aller dans le monde. Je suis certaine que tu parles de tous ces concepts-là dans ton livre.
Oui, merci d'en parler. Ben, la confiance a émergé beaucoup dans la dernière année, fait qu'on en parle un peu moins dans le livre. Le livre, les gens intéressés, on a pris le concept de la chimie. Mm-hmm. Moi, je détestais la chimie à l'école secondaire, puis mon co-auteur également. Il y a une chose qu'on se rappelait, c'était le tableau périodique des éléments. Puis on a tous une représentation en tête de à quoi ce tableau-là ressemble. Puis on entend souvent le terme chimie d'équipe par les analystes sportifs, les journalistes, etc. Puis on s'est dit, ben pourquoi qu'on ne prendrait pas le tableau périodique des éléments, qu'on enlèverait tous les gaz puis les composants qui sont là, qui ne nous intéressent pas, qu'on les remplacerait par des éléments de chimie d'équipe. Donc, ces 30 éléments qui, pour nous, sont des ingrédients qui font en sorte qu'on est en mesure de mieux travailler en collaboration, en coopération, puis amener notre équipe, peu importe le milieu, à avoir plus de succès. Donc, c'est un peu le concept.
Oh, excellent. J'aime beaucoup ça. Moi non plus, je n'ai pas aimé la chimie.
Et voilà.
Donc, j'ai bien hâte de lire ton livre. Je pense que je vais l'aimer un peu plus. Je suis vraiment curieuse à savoir, qu'est-ce que ça a l'air de la transformation d'un athlète à un artiste? Comme tu dis, tu as des gens spéciaux qui passent du temps à faire ça, qui aident tes ouais. athlètes. Mais c'est vraiment un talent hein, très spécifique et spécial au Cirque du Soleil.
Tout à fait. Puis, culturellement, il y a des différences, évidemment. Je donne un exemple. On a passé du temps au Brésil dans les deux dernières années. Un artiste ou un athlète brésilien qui nous arrive à Montréal en formation, très souvent, le switch pour passer artiste est plus facile. On ne se le cachera pas. Culturellement, c'est des bons... Il bouge bien, c'est artistiquement, il dégage déjà quelque chose de différent. Alors que pour d'autres nationalités, c'est plus ardu un petit peu. Donc, on doit travailler un petit peu plus fort. Tous les artistes qui vont venir ici à Montréal vont avoir des exercices de clown à faire, même s'ils ne seront pas clowns dans la vie. On va les amener à sortir de leur zone de confort, à s'exprimer devant un groupe. Donc, on les amène justement à s'extérioriser davantage, d'avoir une meilleure interprétation, de sorte que leur numéro acrobatique devient encore plus fort. Lorsqu'on ajoute justement une connotation un petit peu plus artistique, où on est capable de connecter avec les spectateurs un petit peu plus, qui fait que l'expérience client de la personne qui va venir dans nos environnements, dans une aréna, va être encore plus grand. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Il n'y a personne qui a le même parcours. Certains profils demandent une présence artistique plus grande que d'autres, évidemment, pendant nos spectacles, parce qu'on les remarque plus. Donc, tout ça étant dit, on garde ça en perspective également.
C'est fun d'avoir qu'il y a un genre de parcours en tant que tu rentres en tant qu'artiste dans le cirque, puis tu peux te voir dans différentes places dans l'organisation. Parce que j'imagine que le rôle d'artiste dans le cirque, ça me semble, pour moi, très demandant physiquement, puis probablement aussi d'une façon de mentale aussi émotionnelle. Alors, c'est comment longtemps est-ce qu'un de tes artistes reste dans le cirque comme un artiste?
C'est une bonne question. Ça dépend. Ça dépend de la discipline. Certaines disciplines sont très demandantes côté physique. Évidemment, l'espérance de longue carrière est peut-être réduite à ce moment-là. Alors que pour d'autres, qu'on prenne un musicien, qu'on prenne un clown, on a des personnes qui sont dans la soixantaine, 70 ans sur nos spectacles. La demande, souvent, physique est peut-être un peu moindre. C'est difficile à répondre à ta question. Ça peut aller de quelques années, 5, 8 ans, à peut-être même plus longtemps. Il y en a qui ont fait 20, 25 ans sur nos spectacles.
Oh my gosh, hein?
Puis, tu sais, quand tu parles, tu sais, dans mon équipe, au département casting, maintenant, tu sais, j'ai des anciens artistes. Qui de mieux placés que des anciens artistes pour faire la détection de talent, pour supporter les nouveaux artistes, pour les conseiller également lorsque vient le temps de signer leur contrat, etc. Autant que possible, on essaie de garder notre monde à l'intérieur de la compagnie.
Excellent. En ce qui concerne l'avenir, comment vois-tu évoluer la relation entre le sport et la performance? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir davantage de croisements entre ces deux mondes, d'après toi?
Je pense qu'on a la chance d'avoir des choses en commun, puis on a la chance d'avoir des éléments qui ne sont pas en commun, mais qui nous feraient grandir.
Mm-hmm.
Puis on est privilégié ici parce qu'on veut partager, puis on est toujours ouvert au partage, puis on a eu des belles visites à travers le temps, que ce soit des équipes de la NBA, que ce soit des équipes de baseball, de la MLB, des équipes de hockey, des grandes équipes. On a eu le Bayern Munich Soccer qui sont venus faire un tour également. Donc, on a la chance de partager beaucoup d'informations avec beaucoup d'organisations, ce qui fait que ça nous enrichit l'un et l'autre. Tantôt, j'en ai parlé de confiance. Je pense pour nous, ça a été une priorité dans la dernière année d'établir. Puis, on s'assure aussi d'avoir... Ça, des fois, on l'oublie souvent dans le sport, c'est... On peut-tu demander des fois à l'athlète, qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, quand on est des grands adultes, on pense toujours avoir des solutions à tout, puis on oublie trop souvent de demander l'avis de la personne la plus concernée, dans notre cas, l'artiste, dans le cas du sport, l'athlète, qui est au centre de tout ce qu'on fait. Puis on a commencé à le faire beaucoup ici en impliquant les artistes dans le plan qu'on a avec eux, puis ça fait une belle différence. Ça crée justement ce sentiment-là de confiance, puis il faut demander, puis même avec les plus jeunes, tu sais, demander aux jeunes enfants qu'est-ce qu'ils veulent. Des fois, ça nous donne une perspective différente. Ça nous permet peut-être de prendre des décisions qui sont plus en lien avec les besoins réels et non les besoins qui sont perçus.
Puis aussi, j'imagine, comme on sait très bien, on est tous différents. Juste parce que moi, j'ai besoin de quelque chose, je ne veux pas dire que toi, André, tu as besoin de la même chose. Alors justement, c'est un concept tellement simple, mais qu'on oublie, puis qui peut s'appliquer dans n'importe quel contexte, là.
Tu sais, on dit tout le temps qu'on est centré sur l'athlète, athlete-centered en sport, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on l'est vraiment? Tu sais, des fois, au quotidien, je pense qu'on est loin de cette application-là.
Mais je pense que ça, c'est une bonne façon de terminer notre discussion, André, de se rappeler que si on est vraiment centré sur l'athlète, demander à l'athlète qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, André, je ne peux pas te remercier assez d'avoir partagé ton temps avec nous aujourd'hui. J'adore jaser avec toi. J'ai bien aimé notre conversation. J'ai beaucoup appris. Et puis, c'est fascinant d'entendre comment est-ce que le monde du sport et celui du cirque se croisent. Et puis, je pense qu'ils peuvent apprendre aussi l'un de l'autre. Alors, merci, André.
Bien, merci. J'ai bien aimé notre conversation aussi.
Voilà, nous avons terminé notre premier épisode de Sport Intelligence, la perspective canadienne. Un grand merci à nos auditeurs. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le monde d'acquisition de talent au Cirque du Soleil et la façon dont le sport aide à former la prochaine génération d'artistes. Si vous souhaitez en savoir plus sur André Lachance, consultez le livre « Chimie d'équipe, 30 éléments pour renforcer la cohésion, favoriser la communication et créer une culture sportive saine ». Vous pouvez trouver son livre sur Amazon. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur les médias sociaux à Cirque Canada sur Instagram ou à Cirque Tweets sur X. Pour obtenir nos prochains épisodes où l'on continue d'explorer les histoires et les stratégies cachées qui alimentent le sport canadien, assurez-vous de vous abonner sur Apple, Spotify ou tout autre moyen d'obtenir vos podcasts. Bon, mais voilà, c'est fini. À bientôt!